Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai découvert ce petit livret. Et alors, quand j'étais à la pastorale, celui qui a écrit le livre a dit « Qui l'a lu ? Levez la main !» Et j'ai pas levé la main. Et alors, mes collègues m'ont dit « Pourquoi tu l'as pas lu ?» Je vais écouter, il y a tellement de tracts d'évangélisation que j'ai pas pris le temps de lire celui-là parce que il en existe tellement. Et alors je leur ai promis qu'après j'allais le lire, donc je l'ai lu. Et celui-ci, il est particulier. Il est particulier par rapport aux autres. Et je vais vous le dire maintenant. L'objectif de ce tract est de faire découvrir la prière aux non-chrétiens. La prière, qu'est-ce que c'est ? C'est s'adresser à Dieu afin de le trouver et d'avoir recours à lui et d'avoir une relation avec lui. Sans la prière, nous n'aurions pas connu Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? En effet, je pense qu'on a tous fait une fois cette prière à Dieu, Seigneur, éternel, Dieu, Papa, viens te manifester à moi pour que je puisse te découvrir. Nous avons tous fait un jour cette prière. Nous savions qu'il existait, nous ne savions pas qu'il existait, et nous avons fait cette prière pour qu'il vienne se manifester. Et cette prière, c'est un peu comme une clé qui ouvre une porte. Parce que Dieu nous laisse cette liberté de vivre avec lui ou pas. Et la prière, cette première prière, est le moyen de lui dire « Maintenant Seigneur, je suis prêt, viens, viens dans ma vie. » Il est donc important d'apprendre aux non-chrétiens à prier, car sans la prière, il leur sera impossible de faire une rencontre avec Dieu. Et donc, de mieux le connaître. Beaucoup de tracts d'évangélisation ont pour but d'expliquer qui est Dieu et pourquoi il est intéressant d'avoir une relation avec lui. Certains tracts d'évangélisation proposent aussi de répondre à des difficultés, des questions qu'on a du mal à répondre. Si Dieu existe, pourquoi les guerres ? Si Dieu existe, pourquoi le malheur ? Etc. etc. Et si je priais, a pour objectif de faire prier les gens pour qu'ils découvrent par eux-mêmes l'existence de Dieu et les réponses à leurs questions. Mettre notre orgueil de côté, j'ai toujours réponse à tout, je vais trouver le meilleur moyen de lui expliquer les choses. Mettre notre humilité en œuvre, donner ce tract simplement pour que les gens prient, se passe de nous et que Dieu lui-même intervienne dans leur vie. Matthieu 7, au verset 8, nous dit « Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ayons cette conviction que si une personne demande sincèrement à rencontrer Dieu, Dieu va se manifester dans sa vie. Le problème que nous pouvons rencontrer, c'est notre manque de foi. Et cela est terrible. Car si nous doutons de nos prières, il y a une faible probabilité d'être exaucé. Alors, je n'ai pas mis une faible chance, peu de chance que la chance n'existe pas, mais une faible probabilité pour être exaucé. Si quand je prie, déjà je me dis, ben, ce n'est pas possible, il y a peu de chance pour que ma prière soit exaucée. Et nous allons lire ce passage en Marc 6, versets 1 à 6. Alors, juste avant, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais dans la Bible, est-ce qu'il y a marqué des fois où des gens font des prières et ils ne sont pas exaucés ? Est-ce que c'est déjà arrivé, à l'époque de Jésus, que des gens prient et ne soient pas exaucés ? Et donc voici ce passage. « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ?» Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et ça, c'est intéressant. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Bon, ça me fait rire, il fit quelques miracles. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ça ne pouvait pas être parmi nous. Mais bon. Parce que les gens étaient incrédules, Jésus lui-même n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Nous devons être convaincus que Dieu répondra à la prière de celui. Il faut qu'on soit convaincu, pardon, que Dieu répondra à la prière à celui qu'on donnera ce petit tract. Parce que si je donne ce tract, je m'en débarrasse comme ça, puis j'y crois pas vraiment. Ne fais rien, ne fais rien, ne fais rien. Je pense que tout ce que nous faisons au nom du Seigneur, nous devons le faire avec conviction, conviction de foi. Sinon, laisse tomber. Ce n'est pas pour rendre service à votre évangéliste que vous allez le faire, ça ne sert à rien. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec foi, avec cette conviction que Dieu répondra à l'appel de la prière. Quelquefois, on peut être découragé car nous n'avons pas vu beaucoup de miracles dans nos vies. Alors, on baisse les bras et notre esprit orgueilleux nous fait croire que si je ne vois pas de miracles, alors les autres aussi ne voient pas de miracles. Et du coup, on va s'inventer des explications pour dire que c'est normal, finalement, qu'il n'y ait pas de miracles. Et puis, c'est normal, finalement, qu'il n'y ait pas de nouveaux convertis dans l'église de Thiers. C'est tout à fait normal. Et on va justifier notre manque de foi en disant, c'est normal, que c'est terrible, que c'est terrible. Mais après, c'est dur. Hein. J'ai un cousin, une fois, il est venu vers moi, il m'a dit, écoute, j'ai été à un endroit, on a prié pour quelqu'un qui avait un pied qui n'était pas à la même hauteur. Et son pied s'est mis à grandir et il est venu à la même hauteur. Je vous avoue que j'ai eu du mal à croire ça. Et pourtant, c'était mon cousin n'était pas un menteur. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à le croire. Mais je dis, Seigneur, viens m'aider. Parce que si j'y crois pas, ça ne sert à rien de continuer. Si je ne crois pas que c'est un Dieu merveilleux, à quoi bon? Certains me disent même, nous sommes dans les temps de la fin, c'est normal que les gens ne se tournent pas vers Dieu. Allez, comme ça, c'est bon, c'est débarrassé de ce truc, je ne m'embête pas, c'est normal. Les gens ne se convertissent pas, mais c'est normal, on est à la fin des temps. À la fin des temps, c'est marqué que voilà, les gens seront incrédules, etc. Et puis finalement, je justifie ça, puis c'est plus simple, je retourne à ma vie, je vais faire tranquillement ce que j'ai à faire, et puis voilà. Eh ben non, c'est pas bon. Attention, de telles pensées nous poussent à être incrédules, et cela ne nous aidera pas à diffuser l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ autour de nous. La Bible nous parle d'un homme incrédule qui avait un enfant possédé. Et cet homme dit à Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus lui répond, « Si tu peux, trois petits points, tout est possible à celui qui croit. » Jésus reprend le papa qui s'adresse à lui avec un manque de foi. Et lui dit de s'adresser avec lui avec conviction. Alors, le papa reformule sa demande et il enlève « si tu peux ». Et il dit « je crois, viens au secours de mon incrédulité ». C'est alors que l'enfant est guéri. Il est important que chacun d'entre nous reprenne courage et demande au Seigneur dans l'humilité, viens au secours de mon incrédulité. Et je fais la même chose, je le confesse, je fais la même chose. Seigneur, pardonne-moi parce que quelquefois je manque de foi. Viens au secours de mon incrédulité. et que mon incrédulité ne justifie pas le fait que je baisse les bras. Quand j'étais à Nîmes, j'étais à une conférence sur prier pour les malades. La personne nous disait que nous devions être convaincus que Dieu veut la guérison pour ses enfants. Et que si nous doutons, alors ça ne sert à rien que je prie pour la personne malade. Et après, il nous disait, c'est pas parce que vous avez la conviction que la personne peut être guérie qu'elle sera automatiquement guérie. Parce que ça, après, ça appartient à Dieu. Mais nous, en tant que croyants, nous devons avoir cette conviction que si je prie pour un malade, Dieu peut le guérir. Dieu veut le guérir. Et après, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Alors, il nous accompagnait dans la rue. Quoi, plutôt, c'est nous qui l'accompagnons, qui... C'est assez marrant. Il priait pour les malades dans la rue. Il demandait aux gens s'ils étaient malades et priait pour eux. Eh bien, il a voulu prier pour une personne qui est en train, qui était éboueur, qui est en train d'être éboueur. Mais en fait, le gars, il n'avait rien à faire, lui. Il n'a pas été guéri. Il a été voir des jeunes, et là, il y a un jeune qui, je crois, il avait un problème à la main. Et puis le jeune, il dit, oui, priez pour moi. Il prie pour le jeune, mais hop, le jeune, on voyait, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ma main, elle refonctionne. Il était tout bouleversé. Puis c'est là qu'on voit que c'est pas de l'invention. Mais aussi, on voit que si on manque de foi, les choses ne se passent pas. Si j'en ai rien à faire. Si on prie pour quelqu'un qui n'a même pas demandé la prière, hein, faut pas s'étonner non plus que les choses ne se passent pas. Parce qu'il faut quand même avoir la foi en la prière. La foi que Dieu est tout-puissant et que les choses se réalisent. Et faisons attention aussi de ne pas se moquer des gens aussi quand ils prient. Faisons attention de ne pas nous justifier avant même d'avoir prié. Je vais prier, mais bon, si jamais il ne se passe rien, écoute, c'est normal. Ah non, non. Arrêtons de vouloir mettre des roues de secours avant même d'avoir prié. Enlèvons la roue de secours. Jetons la roue de secours. Et allons-y avec Dieu. Allons dans la fosse aux lions, comme Daniel, et Dieu fera le reste. Et si j'y vais avec une corde dans la fosse aux lions, pour si jamais le lion il est méchant, vite je remonte, nous étonnons pas, il ne se passera rien. Notre incrédulité nous empêchera de voir nos prières exaucées. Qui nous fait douter, c'est nos prières non exaucées. On est d'accord? Pas du tout. En tout cas, moi, ce qui quelquefois peut m'amener à douter, c'est quelquefois on a des prières qui ne sont pas exaucées et du coup, on n'ose plus vraiment. Ce petit livret, il m'a étonné. Il répond à cette question. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Je me dis, oulala, comment il va répondre à cette question? Puis finalement, je trouve qu'il répond plus ou moins, qu'il répond bien. Du coup, je vais vous la lire. Alors, un homme a prié pour que l'épilepsie de son fils cesse. Cela ne fut pas le cas. Des années de crise inconfortable ont privé son fils de langage et d'autonomie. Dans une autre famille, la prière pour un garçon sourd est restée sans résultat. Ailleurs, une bonne relation a dégénéré en une relation abusive. Et malgré la prière, la séparation en a été l'issue. Où est Dieu quand il ne répond pas? La prière est une conversation entre amis. Ce n'est pas comme envoyer un email dans le cyberespace en se demandant s'il sera un jour lu par quelqu'un. Si nous avons une relation intime avec Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs que nos prières sont entendues. Fondamentalement, il s'agit moins d'obtenir quelque chose, mais beaucoup plus de connaître quelqu'un. Nos besoins nous poussent souvent à approfondir notre relation avec Dieu. Il y a des moments où nous avons simplement besoin de persévérer, sachant que ce n'est pas encore la fin de l'histoire, Il y a un vieux proverbe africain qui dit « Aucune situation ne dure éternellement ». Souvent, les situations déroutantes ou les prières semblent rester sans réponse. Change à mesure que nous persévérons. Certaines choses ne se passent pas comme on le souhaiterait, mais bizarrement, elles s'améliorent. Et parfois, si notre prière avait été exaucée, cela n'aurait pas été bon pour nous. Ce n'est qu'avec le recul que nous le réalisons. Mais parfois, rien ne va plus et cela peut nous angoisser au point de nous demander si Dieu est vraiment là. Ce n'est que plus tard, dans l'éternité, que nous finirons par comprendre certaines choses. Cette vie sur terre n'est que temporaire, car nous sommes en préparation pour l'éternité, là où récompense et jugement nous attend. Le dernier livre de la Bible donne une incroyable description de l'avenir où il n'y aura plus de pleurs ni de douleurs. Peut-être qu'alors nous comprendrons combien Dieu aura été proche de nous tout au long de notre vie. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et les prières et les premières choses auront disparu. Voilà la réponse de ce livre que je trouve très bien équilibré, qui donne des réponses aussi à toutes ces prières que l'on pense non exaucées. Ce qui est compliqué avec la prière, c'est que trop souvent nous utilisons la prière pour obtenir quelque chose. Et comme nous dit ce texte, la prière a pour but de mieux connaître Dieu, de parler avec lui. Je le dis souvent et je le redis encore aujourd'hui, Dieu n'est pas un distributeur automatique de miracles. Peut-être que je prends un autre exemple, Dieu, la prière, ce n'est pas Amazon où je fais un clic et j'obtiens ce que je veux. Il ne faut pas faire de pub pour des sites, mais la prière, ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas comme un site internet. D'achat. Nous le savons, Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Pourtant, il ne fait pas tout ce qu'on lui demande par la prière. Alors le livre répond à la question « Pourquoi Dieu n'exauce pas toutes nos prières ?» Mais je pense qu'il y a une question encore plus importante que celle-ci. Et cette question, c'est « Comment réagir face à une prière non exaucée ?» Comment réagir face à une prière non exaucée ? La Bible nous parle d'un homme important, qui est le roi David. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous relire tout le passage. Et cet homme, il a une grande foi. Rappelons-le, Dieu l'a utilisé pour tuer Goliath. Et s'il n'était pas convaincu de la force de Dieu, il n'aurait pas été devant Goliath avec sa petite fronde. Donc David a la foi. David a une relation personnelle avec Dieu. Mais voilà, David a un enfant qui est malade. Et il prie pour que Dieu guérisse son enfant. David est convaincu. Il n'a pas une manque de foi. Il est convaincu que Dieu peut le guérir. Il est tellement convaincu qu'il se met dans les cendres, il jeûne, il prie. Il ne lâche rien. Et pourtant, sa prière ne sera pas exaucée et son enfant va mourir. Comment va-t-il réagir ? Comment va-t-il réagir ? Et là, je vais quand même lire en 2 Samuel 12, à partir du verset 16. David pria pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici. Lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « l'enfant est mort » Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Et il répondit, et il dit à ses serviteurs, pardon, « l'enfant est-il mort ?» Et ses serviteurs répondent, « il est mort. » David se leva de terre, il se lava, soigna, se parfuma, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Et ses serviteurs lui dirent, « que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges ?» Il répondit, « lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aurait pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Dieu ne répond pas favorablement à la prière de David. Et la réaction de David n'est pas de critiquer Dieu, n'est pas de se rebeller contre Dieu. Mais il se lève, se lave, se parfume, va dans la maison de Dieu pour se prosterner et mange. La première réaction de David est de se lever. Sa prière n'a pas exaucé, mais il faut passer à autre chose. Face à des prières non exaucées, certaines personnes sont dans le déni ou l'apitoiement sur soi-même et sombrent dans la dépression. Malheureusement, ça existe. David aurait pu faire une dépression. Il a perdu son enfant, c'est pas rien, c'est pas juste une petite prière comme ça. C'est son enfant. C'est la vie. Mais David choisit de se relever et de faire confiance à Dieu pour l'avenir. La deuxième réaction de David, c'est de se laver et de se parfumer. En faisant cela, il passe à autre chose. Il ne cherche pas à avoir la pitié des gens qui l'entourent, mais il continue de vivre sa vie. Quelquefois, on n'arrive pas à passer à autre chose, et à chaque fois que l'on voit quelqu'un, on va lui parler cette prière non exaucée. « Tu sais, j'ai prié pour mon enfant. » Et certains disent, « Et Dieu l'a tué. » Mais ce n'est pas Dieu qui l'a tué, mais bon. Voilà. Et ils ne peuvent pas s'empêcher tout le temps, tout le temps. Ils vont redire cette prière non exaucée. À tous les gens qui passent, à tous les gens qui lui demandent « Comment vas-tu ?» Ils vont y aller, de nouveau et nouveau. Un an, deux ans passent, trois ans passent, et les choses continuent. Quelquefois, on n'arrive pas à passer à autre chose. Et à chaque fois qu'on a la possibilité de se lamenter, on y va. On y va largement. Et on veut une réponse. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé ma prière? Pourquoi Dieu a laissé mon papa mourir du Covid? Pourquoi Dieu a laissé Jocelyne mourir alors qu'elle était dans le coma et elle est morte cette semaine? Pourquoi? Alors que nous avions tous prié et que nous avions tous la conviction. Dans le cas de David, on pourrait se dire que c'est facile, il a déjà une réponse. Parce qu'un prophète était venu le voir et lui dire, voilà, parce que tu as péché, ton fils mourra. Mais c'est pas si simple. On sait que Dieu est un Dieu de compassion. Il aurait pu quand même le sauver. Ça n'aurait pas été la première fois que Dieu revient un peu sur ce qu'il a dit. Sodome et Gomorre, etc. Quelquefois, voilà, le Seigneur met des critères et puis on arrive un peu à négocier avec lui. Mais là, non, ça n'a pas été le cas. L'enfant est mort. Alors que David s'est bien repenti. Et des rois d'Israël aussi qui se repentent, car le Seigneur revient sur ce qu'il a dit, mais là non. Donc on pourrait dire que c'est bien, David a une réponse, c'est pour ça qu'il s'est levé facilement, mais je pense que c'est trop facile de dire ça. C'est juste que David, il a fait confiance à Dieu, même pour le malheur. Si David a pu passer à autre chose, c'est parce qu'il était soumis à Dieu et qu'il a accepté que la réponse à sa prière n'était pas celle que lui voulait. La troisième réaction de David, qui est importante, hein, qui est avec le reste, c'est qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va à la maison de l'Éternel. Dieu lui a repris son fils, c'est clair, hein, parce que c'est un prophète qui vient, qui a été le voir en personne pour lui dire ta punition, ça sera ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va quand même dans la maison de l'Éternel. Il ne se rebelle pas contre Dieu. Il accepte ce que Dieu a fait, sans aucun chantage. Cela ne va rien changer de sa relation avec Dieu. J'ai connu des personnes qui, suite à des prières non exaucées, ont décidé de ne plus croire en Dieu. Voilà. Souvent c'est lié à la mort, hein. C'est souvent écrit pour un enfant malade qui meurt, pour un époux ou une épouse malade qui meurt. Comme ils meurent, ils disent, ben voilà, Dieu, tu n'existes pas. Donc j'arrête. Mais je pense que, personnellement, le problème est plus profond que juste une prière non exaucée. Si je prie uniquement quand les événements de la vie ne vont pas bien, c'est que je n'ai rien compris au rôle de la prière. En réalité, je ne recherche pas vraiment une relation avec Dieu. Je cherche quelque chose. Je vais être un peu dur, mais peut-être que vous avez connu ça. Vous savez, ces amis qui, quand tout va bien, quand vous avez de l'argent, ils sont autour de vous. Puis quand vous tombez au fond du trou, ben, ils partent les uns après les autres. Parce qu'en fait, ils sont intéressés par une amitié. Ils sont intéressés par votre argent. Ils sont intéressés par votre piscine, par votre voiture. Et je ne sais trop quoi d'autre. Puis une fois que vous avez vu tout ça, ben, on vous laisse tomber. Mais je pense que c'est un peu pareil. Et des gens, voilà, ils veulent bien croire en Dieu parce que Dieu, il pense que c'est le site internet qui va lui donner tout ce qu'ils ont envie. Mais ils ne cherchent pas une relation avec Dieu. Et c'est faussé. Et ça ne marche pas. Je le répète, peut-être pour la troisième fois, la prière n'a pas pour but premier d'obtenir quelque chose, mais de mieux connaître Dieu et de parler avec lui pour avoir une relation avec lui et avoir un vrai ami qui nous aime d'un amour agapé, c'est-à-dire complètement désintéressé. Prier, c'est parler à Dieu pour lui dire ce que l'on ressent de lui tout au long de la journée et de sa vie. Souvent, voilà, tous les jours, je prie, puis je dis merci Seigneur pour ceci, ben, Seigneur je vais là, Seigneur ben, je suis content que tu sois dans ma vie, je suis reconnaissant d'aller là, Et j'attends pas d'avoir quelque chose à lui demander pour prier. Juste, je vis une relation intime avec lui. Et je me sens entouré par ses bras. Et je vis avec lui. Et je suis conscient que finalement, il me guide là. Il m'aime et pas là où il veut que j'aille. Et c'est génial. Et ça donne la paix. Je dévoile, mais voilà, moi je prie même pour ma présence parmi vous à Thiers. Voilà. Seigneur, je suis à Thiers aujourd'hui, demain où serai-je, j'en sais rien. Mais guide mes pas. Et je suis content d'être là aujourd'hui. Voilà, prier, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prions. Prions pour que le Seigneur nous donne la foi, afin que lorsque l'on prie, on ait cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Conformément à sa volonté. Donc il faut accepter que quelquefois nos prières ne vont pas dans le bon sens. Mais ce n'est pas grave. Dans l'humilité, je le reconnais. Et je suis Dieu. Je vais là où il me mène. Même s'il n'y a pas toujours la joie. Même si quelquefois il y a des grincements dedans. Tous ces pasteurs qui sont dans des pays, en Chine ou ailleurs, où ils sont persécutés, ils ne vont pas se révéler contre Dieu. Non, ils y vont. Ils ont cette relation avec le ressuscité. Ils y vont. Je finis parce qu'après, il est trop tard. Je ne l'avais pas prévu, puis finalement, je n'avais pas ces livrets, donc hier je suis parti à Rion pour aller les chercher. Et j'ai acheté une quarantaine de livrets. Je ne vais pas vous les distribuer là, parce qu'il y en a certains qui vont le mettre chez eux, ils ne vont pas y toucher peut-être. L'objectif, pour ceux qui le veulent, prenez ce livret, il y en a suffisamment, un seul, et vous allez l'utiliser vous-même. Pendant une semaine, vous allez prier, comme vous l'indique ce livre. Et une fois que vous l'aurez fait pendant une semaine, vous allez choisir une personne de votre entourage, une, et vous allez lui prêter, vous n'allez même pas lui donner, vous allez lui prêter ce livret. Vous allez lui dire, eh bien écoute, tu vas essayer ce livret, tu vas me le rendre après, et puis on va en parler ensemble. Mais lorsque vous allez donner ce livret, vous allez prier avant pour que Dieu vous donne cette conviction qu'il va agir dans la vie de cette personne et que quelque chose va changer dans la vie de cette personne. Vous allez prier pour que Dieu vous donne le discernement de à qui vous allez le donner. Voilà. Et ça, n'importe qui peut le faire. Je sais que tu peux le faire. Voilà. Mais dans l'humilité. Je disais tout à l'heure à Denis, toi, tu es un formidable évangéliste. Il dit, oh, tu sais, moi, mais justement, c'est pour ça que tu es un évangéliste super. Parce que jamais je t'ai vu te vanter. Et que tout ce que tu le fais dans la simplicité. Ben là, ça va être pareil. C'est dans la simplicité que vous allez le faire. Et avec courage. Parce que c'est pas si simple que ça d'aller voir quelqu'un et de lui dire, tiens, essaye. Si j'ai aussi ce recueil, c'est que là, souvent, en ce moment, à Thiers, les gens viennent me voir. Ils me disent, Denis, tu sais, on t'aime bien, t'es super gentil, alors c'est sympa d'être avec toi, mais bon, tu nous casses un peu les pieds avec la foi. Et j'ai dit, ben là, je pourrais leur donner ce livre. Je leur dis, mais voilà, moi, la foi, je vous en parle parce que c'est peut-être plus précieux dans ma vie. D'ailleurs, je leur ai dit, mais voilà, maintenant, j'aurai cet outil pour leur donner. Et ben, essaye. Et puis après, on en repart. Voilà. Ce qui est dur là, c'est que vous n'allez pas vous en débarrasser comme certains tracts, vous débarrasser du travail, et puis après voilà, on s'en fout de ce qui se passe, c'est le bon terme. Mais là, vraiment, non. Pendant une semaine, vous le testez, pendant une semaine, vous allez donner, vous allez prier pour cette personne, et après vous allez reparler avec cette personne, et surtout ayez cette conviction aussi que l'Esprit Saint sera présent ce jour-là, et qu'il vous donnera les bonnes paroles à dire à cette personne. Voilà. Et là, on ne sera plus dans les temps de la fin, il va y avoir du monde qui va venir dans nos églises. Nous allons prier. Seigneur, viens m'aider à mon manque de foi. Viens m'aider, Seigneur, à distribuer, à prêter plutôt ce petit livret à une personne que j'aime, que j'apprécie, que je vois régulièrement. Aide-moi, Seigneur, à franchir le pas. Aide-moi à jeter la roue de secours à l'eau par-dessus bord. Et dis, allez, Seigneur, sans filet, sans rien, mais avec cette conviction que tu es là et que tu agiras. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.